11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Elle attend les vacances de la zone C pour trouver l'amour avec un grand âme. En attendant, elle cherche le point G avec des plans cul, ça c'est parfait, de A à Z. Léa Londo.
Oui, toutes les lettres de l'alphabet, bonjour.
Elle a refusé de participer au marathon de Pyongyang en Corée du Nord. C'est pas son marathon préféré, le bruit des coups de fouet la déconcentre quand elle court.
Bonjour, bonjour à tous.
Il a confondu la journée internationale des Roms avec la journée du Rhum. Du coup, il n'a pas de monnaie sur lui, il est déjà bourré. Jean-Philippe Bizzini.
Bonjour à tous, bonjour les amis.
Les jeunes femmes l'appellent le Carlos Ghosn de l'amour. Dès qu'on veut discuter avec lui, il disparaît. Le gentil fantôme Ben H.
C'était avant ça, bonjour à tous, bonjour à tous.
Et celle qui a fêté hier la journée mondiale du sport pour la paix, en ne faisant toujours pas de sport, mais en espérant qu'on lui fiche la paix, la sportive des années bissextiles, Anne Roumanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H nous parlera des coulisses de la synthèse du grand débat. À 11h30, nous recevons l'écrivaine Agnès Martin-Lugan pour son nouveau roman Une évidence, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Christine Béroux nous fera un tuto comment mentir.
Tout à fait.
Et à partir de 11h50, le chef pâtissier Christophe Michalak sera notre invité. Je crois qu'il nous a amené des petites douceurs. Jean-Philippe Bizzini nous racontera les exploits culinaires de ses enfants. Et Alando lui fera une interview chaud chocolat.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Toute l'année en France, on entend « Ouais, le chômage, c'est la faute à l'Europe. L'immigration, c'est la faute à l'Europe. Bah, le réchauffement climatique, c'est la faute à l'Europe. » Arrivent les Européennes et là, on entend « Ouais, mais c'est qui se présente ?» Ah bah non, le débat, je n'ai pas suivi. Hein. Moi, de toute façon, je ne sais pas si je vais voter. Hein. Ah bon, il y a un vote pour l'Europe ? Mais pourquoi on doit voter, nous ? Ce n'est pas les Européens qui votent ?
C'est vrai.
Non, déjà, il faut dire qu'il y a plein de nouvelles têtes pour cette élection. Hein. La semaine dernière, quand je suis tombée sur le débat, je me suis dit « Ça a changé Koh-Lanta. » Fini les vieux briscards de la politique qui ont plein d'expérience et de casseroles. Maintenant, la mode, c'est les petits nouveaux qui n'ont pas l'air dans leur assiette. Nathalie Loiseau. Non mais Nathalie Loiseau, elle est au bout de sa vie. Son affiche de campagne, déjà, on dirait Christine Angot qui vient d'écouter le dernier album de PNL. Non mais franchement, Nathalie Loiseau, elle aurait dû faire carrière chez les Verts parce que comme c'est parti, elle va se retrouver dans les choux. Loiseau est bien partie pour s'envoler vers le sol. En même temps, quand on te désigne pour représenter Emmanuel Macron aux européennes, tu sais que tu vas prendre cher. Nathalie Loiseau, pendant le débat, elle avait la tête d'une saucisse végane tombée dans un chenil pour chien affamé. Raphaël Glucksmann, alors lui, il avait l'air préparé au débat comme un lycéen d'option L à qui on vient d'apprendre qu'il a un contrôle de maths surprise. Pujadas était à deux doigts de lui dire d'aller prendre un sucre à l'infirmerie. Non, ce qui est bien avec Raphaël Glucksmann, c'est que quand il va voir son score, il pourra prendre ça avec philosophie. Et oui, Raphaël Glucksmann est philosophe. C'est quand même fou de comprendre Nietzsche quand il dit « Dieu est mort » et de ne pas comprendre le bon sens quand on dit « le PS est mort ». Alors pour le débat, je ne sais pas si vous avez vu, chacun des 12 candidats est venu avec un petit objet, mais avec aucune grande idée. François Asselineau, lui, il est venu avec des menottes pour symboliser nos rapports avec l'Europe. Il aurait parlé du réchauffement climatique, il s'attache au radiateur. Il abordait les impôts, il nous sortait un sextoy. Pour parler de son score, à mon avis, Asselineau, il pourra sortir un microscope. Florent Philippot, lui, il est venu avec une baguette, le symbole du pouvoir d'achat. Moi, j'ai pensé, tiens, le pauvre, il s'en sort pas après Le Pen, Le Pain. Xavier Bellamy, des Républicains, il est venu avec l'Iliade et l'Odyssée. Alors, c'était pas forcément une bonne idée, parce que la dernière fois qu'il y a eu une Pénélope à droite, ça s'est pas bien terminé. Bon, c'était peut-être pour nous rappeler que le dernier candidat crédible chez les Républicains date de l'Antiquité. En tout cas, à la fin, tous les autres voulaient l'envoyer se faire voir chez les Grecs. Benoît Hamon était là, lui aussi. Si, si, je vous jure, le petit. Mais Benoît Hamon, enfin, le petit sympathique qui a l'air de s'excuser d'être là. C'était pas le régisseur plateau, c'était Benoît Hamon. Benoît Hamon, le fils caché de Shrek et de Oui Oui. L'ex-candidat à la présidentielle. Ça faisait bizarre de le voir là. Un jour, il s'imagine président de la République. Deux ans après, il est même pas sûr d'être député européen. En fait, c'est pas une élection pour lui, c'est un redoublement. Il a lancé un mouvement qui s'appelle Génération, on dirait un album hommage. Après Génération Goldman, voici Génération Amour. Avec la reprise pour que tu m'aimes encore, déjà double disque de carton. Moi, je crois que Benoît Hamon aurait mieux fait d'appeler son mouvement Générateur parce qu'il génère pas vraiment l'enthousiasme. Non, moi je trouve que c'est dommage qu'ils aient tous oublié d'apporter l'objet le plus important, l'objet de leur présence. Il reste 50 jours avant les européennes et j'ai comme l'impression que ça va être long. Très long. Très long.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Hier, c'était la journée mondiale de la santé. Vous faites attention à votre santé. Quel est votre truc pour rester en forme, Christine ?
Alors moi, mon truc pour rester en forme, bah, c'est le mensonge. Voilà, hein, demandez-moi si je suis en forme.
Vous êtes en forme, Christine ?
Oh bah oui, je suis en pleine forme, ça ça fait 2 mois que je dors 12 heures par nuit. Oui, ça marche.
Jean-Philippe ?
Ah ben nous, pour rester en forme, par exemple, nous, l'hiver, quand les enfants sont malades, on fait bien attention à ce qu'ils ne nous transmettent pas leurs microbes.
Vous lavez donc bien les mains ?
Non, on les fait dormir dehors.
Quelle horreur. Léa ?
Alors moi, pour rester en forme, je mange de tout. Du fromage, du pain, des frites.
Et avec ça, vous restez en forme ?
Oui, je reste en forme. De grosses patates.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Dans un entretien au JDD, Gérald Darmanin assure que la baisse des impôts est, je cite, sous Emmanuel Macron, une réalité. Retrouvez les meilleures blagues de Gérald Darmanin avec également « Je propose de supprimer la redevance ». Mais aussi, il y aura plus de déclarations de revenus l'année prochaine. Et bien sûr, les restaurants à 200 euros l'addition en moyenne.
Selon un récent sondage, Manuel Valls arriverait avant-dernier à la mairie de Barcelone. Le pauvre, il est allé voir si le gazon était plus vert ailleurs. Et en fait, le plus vert des deux, c'est lui.
Selon un récent sondage, Manuel Valls arriverait avant-dernier à la mairie de Barcelone. C'est fou, il y a donc un gars qui est encore moins populaire que lui.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau-Benage, Christine Leroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes au relais Thalasso de l'île de Ré en jouant un autre jeu, devinez qui je suis.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Léa Landau, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini. Christine Bérou s'est fait opérer des dents de sagesse ce week-end. Elle a des joues de hamster, on peut dire
oui,
ça.
Non, mais c'est pas juste parce que c'est seulement après l'opération qu'on m'a dit qu'avec l'allaitement, j'avais pas le droit aux antidouleurs. Je me suis sentie vraiment prise au piège.
Mais pourquoi tu l'as pas fait un biberon pour l'occasion?
En 3 jours.
Ben Nash, le week-end a été bon, pas de dents de sagesse?
Non, pas de dents de sagesse, ni de sagesse non plus. Non, bon petit week-end.
Il a pas été sage du tout ce week-end, Ben Nash.
Oui, vous avez bien l'air primesautier.
Ben Nash a peut-être une copine
primesautier.
Primesautier, c'est-à-dire?
Oui, ça veut dire pimpant.
Bah écoutez, oui.
C'est l'amour.
Écoutez, oui. Le printemps fait son travail.
Il semblerait que Ben Hache ait rencontré quelqu'un.
Ah oui, ouais,
mais on ne peut pas balancer. Hein, mais...
Et il semblerait que ce soit réciproque cette fois.
Ouais. Ça, il n'est pas obligé de la tenir.
Et il semblerait que ça fait 2 jours, c'est ça?
Non, une petite semaine là.
Oh, wow,
une petite semaine. On va fêter
les noces de...
Les noces de plouf.
Ça se fait si pas pour elle.
Là, c'est pour ça,
Léa, l'amour.
Eh ben, moi, je vous avais dit que j'étais sur 2 doses.
Ouais.
Bon, eh ben, il y en a un qui avance quand même.
Ah.
Voilà. Alors, c'est pas encore ça, mais je vous en dirai peut-être plus demain matin.
Quand il sera sorti du coma.
Et Jean-Philippe, toujours l'amour avec votre femme.
Toujours. Moi, ce week-end, je suis allé voir un très joli spectacle à Versailles.
Quel faillot, celui-là.
Vraiment, j'étais scotché par tant de professionnalisme. Une humoriste exceptionnelle qui d'habitude s'habille en rouge, mais dont on ne dira pas le nom.
Bon, c'est le moment de notre jeu.
Oui.
Qui s'appelle comment, Jean-Philippe ?
Devinez qui je suis.
Ah bah ça donne envie.
J'ai pas dit de chanter, j'ai demandé.
Mais non, mais parce que c'est le matin, moi je suis de bonne humeur.
Ouais. Elle Christine avec votre voix cristalline.
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, 2 auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué l'actualité du week-end. Cette semaine, grâce à Europe 1 et au magasin Comptoir de la Mer, tentez de gagner votre séjour Thalasso pour 2 personnes au relais Thalasso de l'île de Ré.
Ah, génial.
Un séjour de 2 nuits avec 2 soins, massage sous infusion, bain massant, accès au spa marin.
Ah ouais.
Les magasins Comptoir de la Mer, une enseigne ouverte à tous et concept store avec la promesse de produits authentiques, de qualité à des prix justes et de conseils avisés des professionnels de la mer. Découvrez tout l'univers de la mer dans votre magasin Comptoir de la Mer et retrouvez les sélections mode, pêche, nautisme et déco. Plus d'infos sur www.comptoirdelamer.fr.
Okay.
On joue avec Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour
Laetitia. Laetitia, vous habitez à Loche ?
Oh, oui. Je connais bien.
Oh, Ben Hache.
On a dû jamais vous le faire. Ouais, ça, belle paire.
Allez. Non, jamais.
À Loche, dans le 37. Et vous avez 39 ans. Et c'est quoi votre métier ?
C'est lutin du Père Noël.
Mais comment ça ?
Ah bah, je travaille pour le Père Noël. À l'endroit où on fournit des jouets.
Il passe à quelle heure vous donnez vos cachets?
ça se drogue sévère, là.
Non, je travaille chez un grossiste.
De jouets.
Donc, on fournit notamment le Père Noël, effectivement.
Vous avez 3 enfants, 12 ans, 9 ans, 6 ans.
Oui.
Alors du coup, vous prenez en discrétion des jouets dans l'entrepôt pour eux?
Non.
Jamais.
Je prends, mais pas en discrétion. Non.
Ah, parce
non,
que
non.
Vous avez des prix, de toute façon, non?
Oui, c'est ça.
Ah bah ouais. Ouais. Grossiste.
Ils ont trop de jouets, vos enfants, du coup.
Et ben voilà, il faut que je pousse les murs de la maison là.
Ils viennent vous voir parfois au travail, parce que ça, c'est le rêve de tout enfant, d'être entouré de jouets.
Ils sont venus une fois, parce que ma petite est encore pleine de magie dans ses yeux par rapport à tout ça, et je voudrais que ça dure encore un peu.
Ouais.
Mais ils sont venus une fois, et ça a été magique.
Ah bah c'est vrai que moi, une fois, je suis allé au travail de ma mère, elle bossait chez Picard, c'était pas...
Non, mais moi, ma mère était responsable d'un magasin de jouets quand j'étais petite, et quand ils fermaient les portes, j'avais le magasin de jouets pour moi toute seule, c'était incroyable. C'était le rêve, j'avais un magasin de jouets.
Mais votre mère, elle se doutait que c'était vous?
J'étais toute seule, elle faisait les comptes avec le patron là-haut. Moi, je mettais des jouets dans mon cartable.
C'est sûr qu'elle faisait les comptes avec le patron là-haut.
Elle fait ce qu'elle veut, elle était
célibataire.
Toi aussi,
t'as encore de la magie dans tes yeux. Hein.
Laetitia, on a changé la règle. C'est vous qui choisissez entre la liste 1 et la liste 2.
D'accord. Eh bien, la liste 1, s'il vous plaît.
La liste 1, et vous jouez avec qui?
Eh bien, avec Léa.
Ok. Bon, Laetitia, j'espère que je vais vous envoyer en week-end avec votre chérie.
Ce sont des personnalités qui ont marqué le week-end. Attention, top chrono.
C'est un judoka black le plus connu, très grand.
C'est Dirina.
Oui, lui, c'est l'ex-président des États-Unis. Sa femme s'appelle Michelle.
Obama.
Oui. Lui, il a gagné la The Voice. C'est un gitan. Il est toujours avec...
Kenji Girac.
Oui. Elle, c'est une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais 2017. Elle est rousse.
Passe.
Lui, c'est un humoriste qui a un humour très, très noir, qui a fait plein de trucs sur les religions dans On ne demande qu'à en rire. Il produit Laura Lone.
Passe.
Lui, c'est le président des Républicains. Dans le grand débat, il dit qu'il veut rendre l'argent aux Français.
Passe.
Pas évident.
Trois bonnes réponses, c'est pas si mal. Vous n'avez pas deviné Maëva Cook, Miss France 2017.
Ouais, non, j'aurais pas su.
Jérémy Ferrari, humoriste. Ouais. Et Laurent Wauquiez, président des Républicains.
D'accord.
Bah écoutez, non. Vous avez quand même trois bonnes réponses, Laetitia.
Ouais.
On sait jamais.
On va voir comment se débrouille Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bonjour Bernard, il a 39 ans, il est routier. Je vous dis, ça rigole pas.
Il a une grosse voix de routier.
Ah, une belle voix virile de routier.
C'est vrai, Bernard?
Non, c'est pas vrai.
Ouais. Oh, si, quand même, on sent que le mec, faut pas lui casser les couilles. Hein, voilà. Bernard, ça se sent la voix. Bernard, vous habitez à Longnes dans le 62.
Vous allez parler comme ça pendant tout le jeu?
Vous écoutez l'émission tous les jours dans votre camion?
Tous les jours.
Ah, c'est bien ça. Et vous avez un gros camion?
À 44 pas... tonnes.
44 tonnes, ouais.
Ah bah ça, c'est du gros camion.
Ça fait combien de mètres, ça?
Oh, 15 mètres.
15 mètres.
Ah ouais, quand même.
Moi, j'ai toujours peur de me faire doubler par des camions comme vous sur
route, l'autoroute. Ouais. Ouais, ça fait peur. On dit s'il bascule,
moi, je ferme les yeux le temps que ça passe.
Ah, oui.
J'ai trop peur.
Vous dormez dans votre camion la nuit, alors?
Oui, c'est ça.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est comme une petite maison.
Les camions sont équipés maintenant. Il y a tout le confort. Hein.
Jacuzzi, non?
L'ordinateur. Le hammam.
Au top.
Et quand vous ne travaillez pas, vous le garez où, votre camion?
Dans le salon.
Bah, à l'entrepôt.
À l'entrepôt.
Bah oui, il ne va pas le ramener dans son jardin.
Bah, justement, je me posais la question, figure-toi.
Entre le barbecue et la balançoire.
Bah, moi, j'aurais bien fait un jacuzzi entre le barbecue et la balançoire.
Vous jouez avec qui, Bernard?
Bah, je vais prendre Jean-Philippe.
Allez, Bernard. Voilà, 3. Oh, normalement, on est bon.
Si vous faites 4 bonnes réponses, vous partez en week-end.
Allez.
Attention, à l'île de Ré. Top chrono.
C'est la présidente du Front National. Elle s'appelle...
Marine Le Pen.
Ouais. C'est un joueur de foot, il joue au Bayern de Munich, c'est un Français, il est balafré, il parle pas bien... Ouais. C'est un groupe suédois qui chante Dancing Queen, tout ça.
Ah bon.
Ouais. C'est un rugbyman avec une grosse barbe.
Rugby.
Ouais. C'est le ministre de l'économie.
Passe.
Ouais, c'est un humoriste qui a présenté les Césars, il fait un spectacle tout en douceur, ça s'appelle. Il est chauve.
Passe.
Ok, bon, de toute façon, on en a 4. C'est celui qui chante Cargo de nuit. Cargo de nuit, c'est... Ok.
Le Titanic.
Non.
Il a dit quoi?
Le Titanic. Titanic. Ah, c'est Axel Bauer.
Mais vous avez 4 bonnes réponses.
Bravo.
Vous avez gagné. Vous n'avez pas trouvé Gérald Darmanin, ministre de l'économie, Jérôme Commandeur en spectacle au Casino de Paris ce week-end jusqu'au 24 avril,
et Axel Bauer qui n'a fait qu'un tube dans sa vie, Cargo de nuit.
C'est une machine dans ma tête.
Voilà.
Je connais la musique, mais pas le chanteur.
Bon.
Ouais, voilà.
Bernard, je vous un petit cri de joie.
Ouais.
Les comptoirs de la mer vous offrent votre séjour Thalasso pour deux personnes au relais Thalasso de l'île de Ré. Découvrez tout l'univers de la mer dans vos magasins. Comptoir de la mer, retrouvez les sélections mode, pêche, nautisme et déco. Plus d'infos sur www.comptoirdelamer.fr. Bon, Laetitia, on est désolé. Laetitia, on l'a perdu.
Désolé,
Laetitia.
C'est pas grave. Hein,
c'est pas grave, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois.
J'espère bien.
Bon, on vous embrasse tous les deux, Bernard.
Ouais, plein de bonheur.
Profitez bien.
Moi aussi.
Merci, un grand merci à l'équipe et à vous, Anne.
Ouais, bon, oui, bravo. Merci Bernard.
Bon bisous Bernard.
Allez, salut.
Merci Jean-Philippe.
Ouais, mais, salut Bernard.
Bon, merci à tous les deux. Continuez à vous écouter, à nous écouter. On vous embrasse.
Bravo.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes durant la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Ouais. Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Christine Mérou, Jean-Philippe Bizzini et Ben H qui nous parlera des coulisses de la synthèse du grand débat.
Oui.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec BNH, Léa Landau, Christine Mérou, Jean-Philippe Bizzini.
Ouais, bonjour.
Oh là là.
Quelle ambiance.
Vous savez que la première ministre, calmez-vous.
On se croirait dans une boîte de zouk. Là.
La première ministre britannique Theresa May a estimé que parvenir à un accord dans les discussions sur le Brexit entre le gouvernement et l'opposition nécessiterait des compromis des deux côtés. Ouais. Alors vous, quel compromis avez-vous déjà fait pour quelqu'un ? Quel compromis doit accepter la personne qui partage votre vie ? Jean-Philippe ?
Ah ben moi, vous savez, avec celle que j'aime le plus au monde, je ne fais jamais de compromis car je l'aime toujours, comme au premier jour.
Waouh, elle doit être contente, votre femme.
Ah, je vous parle pas de ma femme, je vous parle de ma voiture.
Christine ?
Alors moi, pour être heureuse en couple, j'ai dû faire un énorme compromis. Un compromis avec le destin. Voilà, parce que j'avais demandé Georges Clooney, à la place, on m'a donné Bruno, mon copain. Voilà, mais lui aussi, il a fait un sacré compromis. Il avait demandé Nathalie Portman. Alors...
Effectivement.
C'est clair qu'il s'est bien fait avoir.
C'est pas vrai, Christine est très jolie.
Et magnifique, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà, mais à force de vouloir faire des vannes tout le temps, on dit des choses qu'on pense pas.
Tu as une maternité rayonnante.
Grave.
Ouais, elle fait beau
Nathalie
bébé,
Portman
en plus.
N'a qu'à bien se tenir.
Arrêtez, là c'est trop.
Ben H.
Moi, c'est ma dernière copine, elle a fini par m'appeler Brexit. Parce que j'ai fait avec elle comme les Anglais font avec l'Europe. Après plusieurs années de relations stables et durables, j'ai demandé à reprendre ma liberté tout en lui proposant de coucher ensemble de temps en temps.
Elle a accepté ?
Non, j'ai jamais pu reprendre le tunnel sous la Manche, si vous voyez ce que je veux dire.
Oh !
C'est délicat.
Non, il s'est pris pour un Eurostar.
Alors Ben H, vous avez passé un bon week-end ?
Bon, écoutez, Anne, comme vous le savez, chez moi, le mot week-end n'existe pas. Hein. Je ne m'accorde aucun temps libre. Ma vie, c'est vous, c'est mon travail. Je ne suis pas comme Jean-Philippe Bizzini. Moi, j'ai pas le temps de faire des barbecues quand j'enquête sur les terrains hostiles. J'ai aussi la chance de ne pas être contraint, comme Christine Bérou, de vainement tenter d'élever un bébé en bas âge. Temps perdu si on considère que les médecins lui ont déjà dit clairement que l'oreille d'un individu ne peut pas capter la fréquence de ta voix, Christine, avant l'âge de 4 ans. Hein, avant, c'est trop aigu. Bref, ce week-end, j'ai donc enquêté au plus près des préoccupations de nos auditeurs dans les coulisses de la restitution des propositions du grand débat national que Édouard Philippe présente aujourd'hui même, hein, ce qu'on appelle la grande synthèse des 1,5 million de propositions de Français, et je suis revenu avec des exclusivités ce matin.
Vous avez la liste finale des propositions qui ont été retenues ?
Non, moi j'ai seulement la liste de celles qui ont été coupées. Hein, je les ai trouvées dans les poubelles de Matignon ce matin avant de venir. J'ai trouvé ça, une vieille photo de François Fillon en slip tanga, époque gouvernement Sarko. Sans doute une archive du palais, je sais pas. Bref, j'ai trouvé les propositions qui ont été faites par les chroniqueurs de l'émission, visiblement investis dans l'avenir du pays. Hein, question de Léa Landau qui a pris le gouvernement pour mythique, je la cite. Aucune proposition, mais si une personne célibataire, beau gosse, riche et drôle, passe par ici, je suis célibataire et j'ai la dalle. Suivi d'un autre message, peut-on imaginer bientôt pouvoir légalement acheter ou louer quelqu'un ? J'ai fait le tour, je ne vois plus que ça pour lutter contre le drame de ma solitude.
Oh, c'est pas vrai parce que Léa a beaucoup de propositions.
Oui, c'est vrai. Merci de le rappeler, Anne, quand même.
Et donc,
voilà. Bah, et donc je dis non parce que...
Voilà, merci Léa. Là, je pense en fait que le gouvernement a fait preuve de bon sens avec toi, Léa, en refusant ta proposition. Tu es très jolie, dynamique, drôle, tu connais une réussite professionnelle. La conclusion est que si tu ne trouves pas, c'est que t'es chiante. Hein, et aucune loi ne peut changer ça. Allez, je vous quitte avec une dernière proposition d'une certaine Christine B. Peut-on réfléchir à l'introduction de cannabis dans le lait maternel pour une meilleure gestion du sommeil de l'enfant ? Voilà, je vous laisse là-dessus, mais comptez sur moi au plus près de l'actu. L'enquête continue.
Bravo.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, Christine Mérou, Léa Landau, Ben H et notre invitée, la romancière de best-seller Agnès Martin-Lugan, pour son dernier livre, Une évidence, paru le 21 mars aux éditions Michel Lafon.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Christine Mérou, Ben H. Et notre première invitée qui a eu une première vie de psychologue dans la protection de l'enfance avant de devenir auteur à succès parce que ses livres se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Elle manie des notes car elle n'écrit qu'en musique et vient de publier son nouveau roman Une évidence qui pose une question pas si évidente. Faut-il se délivrer de son passé pour écrire l'avenir ? Applaudissements pour Agnès Martin-Lugan.
Bonjour.
Bonjour Agnès Martin-Lugan.
Bonjour.
Alors votre réussite professionnelle, c'est un peu un conte de fées, c'est-à-dire pendant longtemps vous avez été psychologue dans la protection de l'enfance.
Effectivement.
Avec toujours cette envie d'écrire, sans oser le faire.
Alors j'ai découvert le plaisir de l'écriture à la fin de mes études de psycho, en me disant un jour je raconterai des histoires. J'écrirai pas psy, mais je raconterai des histoires. J'ai pratiqué mon métier, je suis devenue maman. Et c'est quand je suis devenue maman que le désir de l'écriture est revenu... et j'ai pas pu lutter contre.
Pour qu'on vous laisse tranquille, quoi. Que moi...
non. Et voilà, tout a démarré de ça.
Donc au début, vous avez suivi des cours, en fait, c'est ça ? Vous avez quelqu'un qui vous a guidé ?
Oui, j'ai fait un principe d'atelier d'écriture en travaillant mon premier roman, Les gens heureux, les éboivent du café. Et puis, je l'ai envoyé à des éditeurs.
Qui l'ont refusé.
Voilà. Mais certains m'ont dit quand même qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Donc je l'ai retravaillé et je me suis lancée dans l'auto-édition. Pour que le roman, il existe en fait. J'avais envie d'aller au bout du défi personnel que je m'étais lancé. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je l'ai mis en auto-édition.
Vous l'avez mis sur Amazon.
Voilà.
Et là ?
Et là, les lecteurs ont été au rendez-vous tout de suite.
Et ça, comment vous expliquez ?
On dit qu'ils s'identifiaient au personnage, qu'il y avait de l'empathie en fait avec le personnage. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont porté ce roman. Et puis trois semaines après que je me sois lancée en auto-édition, j'ai été contactée par les éditions Michel Lafon. Et là, ça a pris une...
Et là, j'ai dit non.
Vous leur aviez déjà, vous les aviez contactés.
Non.
Et là, ils ont eu du nez quand même, parce que maintenant, vous êtes dans toutes les gares, partout. Ouais. Il y a des présentoirs. À votre...
Oui. Des fois, je tombe face à moi quand je vais à la gare.
Et ça vous fait quoi ?
Bah, je me kiffe.
Non, ça fait drôle. Il y a quand même toujours le moment de recul. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible. Et il y a une espèce de vertige quand même incroyable.
3 millions d'exemplaires, 32 pays, traduction, c'est énorme.
Ah oui, les traductions, c'est le petit truc magique. La chance de pouvoir aller faire de la promo dans des pays où je ne serais jamais allée de moi-même.
Vous levez à 5h30 du matin, Agnès Martin-Lugan, pour écrire ?
Oui, quand je suis en période d'écriture, c'est ce que je fais.
Pourquoi ?
En fait, je me suis rendu compte qu'en dormant encore, le moteur... se mettait plus vite en route chez moi.
C'est ça que vous devriez faire.
Et moi, ça me le fait à chaque fois quand je suis en espèce de rêve, en fait, dans un truc un peu... J'ai des idées incroyables.
Ça, c'est la drogue.
Et j'arrive pas à me réveiller pour les noter. Je me dis, ça, c'est super. Et
donc,
puis,
vous levez à 5h30 du matin, c'est Martin Lugan. Après, vous faites le petit déjeuner de vos enfants, c'est ça ?
Oui, je fais une pause, en fait.
Pour le petit déjeuner.
Voilà, je m'arrête quand les enfants se lèvent.
Et dès qu'ils sont partis, vous mettez de la musique.
Oui. Parce que je ne travaille, enfin je n'écris
pas. Mais à 5h30 du matin, vous ne mettez pas de musique quand même
Si, dans mon bureau, puis avec un petit casque.
Et vous écoutez quoi ?
Du hard rock à fond.
Chaque roman a sa playlist.
Pourquoi vous ne livrez pas vos livres avec votre playlist ?
Dans le dernier, elle y est. Il y a les 4 pages de playlist. Et en plus, je les mets, elles sont sur Spotify et Deezer, si les lecteurs ont envie de d'écouter.
En lisant.
Voilà.
Et à 16h, vous vous arrêtez pour faire goûter vos enfants ?
Oui, et c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien avec eux quand ils rentrent de l'école. On fait les devoirs pour être très vite débarrassés des devoirs. Et puis après, on se pose tous les trois avec mes deux garçons. Et mon grand me demande si j'ai écrit aujourd'hui. De temps en temps, il monte dans le bureau pour vérifier combien de pages.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Il lit ?
Non, à 10 ans, je le laisse pas encore lire. Alors, il a feuilleté la BD des gens heureux, parce que les gens heureux... Les éboivent du café sont sortis en roman graphique.
Mm-hmm. Vous attendiez un tel succès, Agnès Martin-Lugan ?
Non.
C'est un conte de fées, c'est comme...
Ouais, on n'ose pas
en rêver.
C'est
comme J.K. Rowling, c'est comme...
Oui, c'est tellement extraordinaire.
Oui, c'est sûr.
Ça me tombe dessus comme ça, au tout début. Je veux dire, quand les premiers romans étaient téléchargés, etc. C'était déjà extraordinaire. Enfin, pour la petite histoire, avec mon mari, on s'était dit, si t'en vends 100... On ouvre le champagne.
C'est génial.
3 millions, il a fait quoi alors ?
Vous avez dû finir sacrément bien bourré. Hein.
On a été émus quelques fois quand même. Mais voilà, c'était tellement de l'ordre de l'impossible, finalement.
C'est Internet qui rend tout ça possible aujourd'hui. Ouais. Parce que oui, pour il y a quelques années, quelqu'un sans contact, sans aucune connexion, ça, vous auriez peut-être même pas pu vous faire éditer.
Non. Puis en même temps, ce qui, moi, je trouve est joli à mon parcours, c'est que je suis devenue auteure grâce aux lecteurs. C'est eux qui m'ont amenée là où j'en suis aujourd'hui et qui continuent à me porter finalement. Donc c'est revenir.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les lecteurs quand vous faites des séances de dédicace à Agnès Martin-Luber ?
Ils me disent qu'ils ont été embarqués, qu'ils ont vécu avec le personnage principal, qu'ils ont l'impression finalement que c'est des amis. Et ce qui est très rigolo, c'est que finalement, ils ont du mal à terminer le roman comme moi, j'ai du mal à terminer de l'écrire. Ils passent par les mêmes émotions que moi.
Faites des livres pas finis, tout le monde sera content. Ouais.
Et d'ailleurs, le prix de vente du premier que vous avez mis sur Amazon, c'était quelque chose d'abordable pour qu'on puisse vous lire vite ?
Alors, les 15 premiers jours, il était à 89 centimes d'euros. C'était pour le principe, je voulais qu'il y ait un...
C'était à moins d'un euro.
Voilà, quand même. Ben forcément, ça
là, vous avez monté vos prix, là.
Un petit peu, ouais. Ouais.
19,95 €. Mais c'est copieux, parce qu'il y a quand même...
Il y a quelques pages.
Ouais. Il y a 380 pages.
C'était pour le symbolique qui a un prix, parce que c'est pas... Voilà, ouais, c'est du un travail.
Combien de temps ça vous a pris, votre dernier roman, Agnès Martin-Luber, à écrire ?
En gros, c'est une petite année du moment où le personnage principal va apparaître... Jusqu'au moment où.
Et là, vous êtes déjà
part.
Dans le suivant ?
Pas encore, parce que je lui ai pas complètement dit au revoir à Rennes, en fait. Voilà, cette maman.
Racontez l'histoire. Donc, c'est une maman de 40 ans seule, avec un fils.
Avec son fils de 17 ans, qui grandit. Mais il y a un secret, un mensonge autour de la naissance de son fils. Et comment elle va pouvoir faire face à ce passé qui lui revient un petit peu en pleine tête du jour au lendemain ?
Il y a des passages très sensuels dans le livre, je trouve.
Ah !
C'est toujours ses préférés.
C'est vrai. Elle
met des marque-pages pour cela et elle les relit chaque soir.
Il y a la playlist qui va avec ou pas ?
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Agnès Martin-Luber et son dernier roman Une évidence qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bisignol, Lalando, Christine Mérou, Ben H. Et notre invitée Agnès Martin-Luber. Alors, non, c'est vrai qu'il y a des passages pour son roman Une évidence qui vient sortir aux éditions Michel Lafon. Vous permettez que je lise un extrait ?
Allez-y, allez-y. Surtout qu'elle a la voix grave aujourd'hui, ça va être super.
Et Paco maîtrisait la science du baiser, ses lèvres, sa langue ravageait les miennes et me faisait perdre pied. Je me collais à lui, désirant plus, il comprit le message. Ses mains ouvrirent mon manteau et se faufilèrent sous mon pull. Elles étaient froides et ma peau très chaude réagit à leur contact. Je gémis de plaisir.
Oh bah je comprends pourquoi elle ne fait pas lire aux gosses. Hein.
Il est encore un peu petit pour ça.
Oh, il comprendra très bien, je suis sûre. Ça vous arrive de ne plus avoir d'inspiration, d'être devant, de passer une journée où il n'y a rien qui sort ?
Il y a des jours où ça peut arriver. Quand je suis vraiment lancée, je suis lancée. Bien pour celui-là, je ne connaissais pas la fin. J'avais une idée de la fin, mais pas la totalité, pas vraiment la fin, quoi. Et là, c'est quand même un grand vertige. C'était la première fois que ça m'arrivait. Mais en même temps, l'envie était telle, et puis Rennes était déjà tellement à l'intérieur qu'il fallait
mais
que j'y aille.
Mais Rennes, c'est un double de vous-même, Agnès Martin-Luber ?
Non. Non, parce qu'en fait, je vis ce rapport-là hyper fusionnel avec tous mes personnages principaux, enfin, les unes les autres. Elles donc, rentrent dans
les
ma
mains
vie
froides, et... le corps chaud, tout ça, rien à voir du tout.
Non, mais qui vous inspire vos protagonistes alors ? Des gens que vous connaissez ou vraiment jamais. Ça sort de l'imaginaire
ça
total ?
Ça sort de l'imaginaire, c'est à chaque fois de la pure fiction.
Rosemarie vous dit, mais qui est cet homme ? Et vous ?
Il en entend beaucoup parler quand même, parce que je débriefe tous les soirs avec lui. Donc,
Vous lui racontez tous les soirs ?
Oui.
Vous ne l'appelez puis, pas par l'autre prénom, par exemple ?
Non.
Mais il y a l'écrivain Elisabeth Guibert qui a écrit Manche Prix M, qui dit que ce sont des lutins dans les murs qui lui donnent des idées et que les livres s'écrivent tout seuls, finalement. Est-ce que vous ressentez aussi ce concept ou...
Est-ce que vous fumez, en d'autres, termes ?
Est-ce que vous avez des lutins chez vous ?
Alors, je n'ai pas de lutins, mais je dis souvent qu'on est très nombreux à table. J'ai l'impression quand même de les traîner toujours avec moi. En dehors du lien que j'ai avec le personnage principal, finalement, je me laisse surprendre par les personnages secondaires. Parce que comme c'est plus moi, finalement, qui vois ce qui se passe, c'est le personnage principal, je me fais avoir, donc je me laisse surprendre. Ah ouais. Et je me fais cueillir par les personnages secondaires qui, parfois... finalement, ont des réactions qui sont pas...
Genre, vous écrivez une page, après vous... Ah bon ?
Ah ouais. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois.
Je présente quelqu'un qui est habité aussi à sa manière, c'est Christine Bérou. Je sais pas combien de personnages elle en a, on n'a jamais pu compter.
Non. Alors, votre roman Une évidence aborde le thème du mensonge et je me suis posé la question comment mentir. Vous l'aurez compris, c'est le retour des tutos de Christine. C'est le meilleur moment de l'émission.
Je suis obligée de dire. C'est toi qui le dis.
Je suis pas obligée de le dire parce que les gens le savent maintenant. Alors déjà, quand on travaille en équipe, ne jamais dire la vérité, parce que vous imaginez, par exemple, Léa, tu te rappelles le jour de tes 40 ans, je t'ai dit, tu les fais pas. Bon, en fait, tu les fais. Depuis 20 ans. Voilà. Toi, JP, il faut que tu ouvres les yeux, d'accord ? Ton fils a 10 ans, il mesure 1m80, il est champion de basket et il est noir. Voilà, tu dis que des fois, ça saute une génération, mais là, c'est pas la génération qui s'est fait. Bon, et Anne, vous êtes merveilleuse. Vous êtes merveilleuse, Anne, ne changez rien. Voilà, surtout pas mon contrat d'embauche. Ensuite, pour bien mentir, il faut partir sur un truc vrai qu'on va déformer. Par exemple, JP, tape-moi la main.
Oui, comme ça.
Voilà, JP m'a tapé la main. À l'occasion, je raconterai que je me suis tapé JP. Voilà, après, il y a plusieurs degrés dans le mensonge, au prorata que l'on respecte la personne. Là, je vois mon copain m'a demandé s'il n'avait pas pris un peu de bide. Alors, il y a le mensonge basique. Non. Il y a le mensonge diplomatique. Non, mais t'inquiète pas, en fait, tu chantes très bien. C'est pour ça que le voisin t'a confondu avec des Miss Roussos. Enfin, le mensonge maladroit. Mais non, t'es pas gros. Par contre, tu feras gaffe, t'as pris ma brassière. Ah, pardon, c'est ton t-shirt. Autant pour moi. Sinon, il y a le mensonge réservé à une élite. C'est le mensonge du plus c'est gros, plus ça passe. Exemple, je vous le dis dans les yeux. Je n'ai pas de compte en Suisse. Voilà, si j'essaye, moi ça rend pas pareil. Anne, je te le dis dans les yeux, je n'ai pas mangé de frites à la cantine. Après, je pense qu'on peut mentir à tout le monde, sauf aux enfants. Maman, pourquoi t'es par terre dans une position bizarre ? Je fais mon yoga, ma chérie. Et bah papa, hier soir, quand il est rentré de chez tonton, il a passé la porte et tout de suite, il a fait du yoga. Ouais, les enfants ne savent pas mentir. Tout ça pour dire, il y a les petits mensonges qui pimentent nos vies et il y a les grands mensonges qui font les bons romans, comme le vôtre, Agnès. Et ça, c'est la vérité.
C'est un beau roman. C'est une belle histoire.
Agnès Martin-Ludon, vous êtes émerveillée parce que vous arrive en fait.
Il faudrait être difficile quand même pour ne pas l'être.
Quel prix vous ferait le plus plaisir ?
Bah, finalement, je l'ai déjà.
Ouais, c'est le public.
C'est le public, c'est les lecteurs, c'est eux qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Et comme ils sont toujours là.
Ok, et sincèrement ?
Non, mais sincèrement, c'est ça. Sincèrement, c'est vrai.
Il paraît que vous êtes maniaque avec vos livres. Chez vous, ça doit être bien rangé.
Oui, j'ai des bibliothèques où ils sont bien rangés.
Vous les repassez apparemment.
Non, je les range. C'est bizarre. Je les range.
Il ne faut pas toucher à vos livres, sinon vous énervez.
Ouais, j'aime pas quand ils sont abîmés.
Genre un livre griffonné, ça vous rend dingue.
Ouais, je vais mettre des post-it.
Ouais. Mais écrire dessus.
Je vais pas écrire dessus.
Mais nous, t'as le droit de prendre des notes dans vos livres ou vous venez chez nous
vous ouvrez la porte et qu'est-ce que tu fais ? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses petits rituels avec ses bouquins. Hein. C'est ça qui est.
Mais vous aimez l'objet livre en fait.
Oui, j'aime l'objet livre. Ouais.
Agnès Martin-Ludon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Bah, que ça continue encore un peu. Ça serait bien.
Bah, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci de passer.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Pour ceux qui voudraient découvrir, il y a 3 millions de lecteurs, mais les autres qui n'auraient pas encore lu, il y a le roman Une évidence qui vient de sortir, c'est l'histoire de Rennes, une jeune femme avec un fils et plusieurs hommes qui tournent autour, et elle concrétise avec pas mal d'hommes, je trouve.
Mais dis pas tout.
C'est le passage que j'ai préféré. On se retrouve dans quelques instants, c'est Christophe Michalak, le pâtissier, qui sera notre invité, ne bougez pas.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, Léa Londo, Christine Bérou.
Et Ben H.
Voilà. et notre invité, un champion du monde de pâtisserie, probablement le pâtissier le plus médiatisé de France à la télé ou dans ses boutiques. Ce passionné de sucré cuisine comme on peint à grands coups de texture et de couleurs vives. Auteur de plusieurs livres, mais également professeur dans ses propres ateliers. Il adore partager ses secrets et c'est tant mieux. Ce matin, il vient nous parler chocolat de Pâques et masterclass. Le croquant, croustillant, moelleux Christophe Michalak est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Christophe Michalak.
Bonjour Anne, quelle éloge.
Alors je vous remercie d'être avec nous, je vous remercie moins de venir foutre en l'air mon régime. Parce que là vous êtes venu avec des petits chocolats.
Délicieux.
On a les mêmes soucis, je suis au régime toute l'année et malheureusement c'est difficile. Mais là c'est Pâques, c'est presque Pâques, donc il faut se faire plaisir.
Oui mais moi je vais à l'Olympia à Pâques, donc je mangerai des chocolats après. Vous avez créé des œufs traditionnels mais aussi une cloche en chocolat blond. C'est parce qu'il est blond que c'est une cloche ? C'est pas un peu facile ?
Non, c'est une erreur d'un de mes amis. C'est un chocolat blanc qui est resté un peu trop longtemps au bain-marie. En fait, il y a de la poudre de lait dans le chocolat blanc. Cette poudre de lait, elle cuit exactement comme on appelle ça, le lait caramélisé, la confiture de lait lotché. Et en fait, ce chocolat a un vrai goût de biscuit caramélisé. C'est juste atomique.
Il y a également une poule rock. C'est un hommage à Johnny ?
pas vraiment, mais j'aime la musique pop rock en règle générale, et la musique a fait partie de ma vie. Sur cette poule, il y a un petit écriteau, elle tient son nom, son petit slogan, et son slogan est le suivant: you rock ma poule. Et je trouvais ça sympa de faire une poule qui peut parler, qui dise you rock ma poule.
Par contre, il y a pas de lapin,
pas cette année en tout cas.
Pourquoi?
Hey, le mec agressif.
Je veux savoir, monsieur Michel, répondez.
Non, mais poule, lapin,
arrêtez de faire l'autruche.
Vous qui êtes pâtissier chocolatier, Christophe Michalak, Pâques, c'est le deuxième moment fort après Noël ou carrément le premier?
Non, le deuxième. Noël étant vraiment un raz-de-marée pour nous pâtissiers, il faut le vivre une fois dans sa vie. C'est en trois jours, en fait, on fait. C'est l'économie de trois mois de l'année en trois ou quatre jours. Donc c'est vraiment très intense.
Et c'est vrai que la bûche de Noël, on commence à la préparer en septembre?
La bûche de Noël, déjà, moi, je travaille, je commence à la finaliser, celle de.
Parce que c'est des collections, en fait.
Ah oui.
Des collections.
Absolument, ouais. Là, vous allez voir, c'est collecteur. Je ne peux pas vous en parler, mais je suis super content de moi.
Là, vous travaillez sur la bûche de Noël prochain?
Ouais, elle est d'accord. Quasiment finie. Hein.
Ah ouais, c'est pour ça que c'est toujours dégueulasse.
Pour la mettre au frigo, du coup. Hein,
non, mais là, c'est que les croquis, le visuel est fini. On va travailler tout doucement maintenant sur la dégustation. Et après, non, les bûches, en régional, on les commence fin mi-octobre, fin octobre.
Vous êtes étonnamment mince parce que vous gavé de gâteaux toute
je
la journée.
Je me fais vomir à chaque fois.
Mais non, non. Mais comment vous faites?
Non, je suis super gourmand, mais après, voilà, j'essaie de manger très équilibré.
Et est-ce qu'un jour, vous allez faire des gâteaux vraiment light pour les femmes qui font attention?
Mais j'en ai fait, en fait, ça ne m'a pas plu.
J'ai fait des... oui, mais moi, ça m'intéresse. Non, excusez-moi, ça ne vous a pas plu, vous.
Je vous assure.
Mais moi, j'aimerais en manger. Parce qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas manger de gâteaux, et voilà.
Non, mais
pensez aux femmes qui souffrent.
Parce non, que... mais c'est mon problème quotidien, moi aussi. Hein. Mais je vais vous donner
parce
un
astuce. Parce que là, j'ai trouvé du chocolat. Alors, vraiment, ça ne fait pas grossir, mais c'est pas tellement bon.
En fait, il vaut mieux manger une petite part d'un très bon gâteau qui est fait avec des produits
ultra nobles. Moi, non, je suis désolée.
Ah, ben si.
Non, parce qu'elle va en prendre un deuxième.
Non, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des. Je vous jure, il y aurait une pâtisserie avec des. Mais j'irais tout le temps.
Non, mais c'est un vrai problème, quand même.
Parce que moi, j'adore les gâteaux. Ouais.
Elle est en train de vous dire que si vous montez la pâtisserie, vous faites le chiffre d'affaires sur l'année.
Par exemple, il y a un truc qui ne fait pas grossir, c'est tout ce qui est gélatineux, ça ne fait pas grossir. C'est pas bon, mais si vous arrivez à faire un flan gélatineux amincissant,
mais moi, je l'achète tout de suite. Je fais le flan, pour moi, le flan de ma vie, quoi, que je fais à la flan d'oranger du Liban et la vanille Madagascar. Je le fais comme je le sens, et pendant très longtemps, je faisais tout ça sans pâte. Parce que toi, je trouvais que c'était plus sain, plus facile à digérer, etc. Il y a des clients qui adoraient ça, et il y a des clients qui disaient non, mais quand même, le flan, c'est avec la pâte et tout. Ouais. Et toi, à un moment donné, il faut quand même écouter tes clients, quoi.
Oui, mais moi, je suis une cliente potentielle.
Là, vous avez une grosse cliente, là, c'est ça? Et vous n'avez pas compte du chiffre d'affaires.
Qu'est-ce que tu entends par grosse cliente?
Non, au niveau chiffre d'affaires. Enfin.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Christophe Michalak. Vous nous parlez de ces nouveaux chocolats pour Pâques 2019. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. Ce lundi avec Jean-Philippe Bizini qui a la bouche pleine de chocolat.
C'est
si, c'est vrai. Léa Lando, Christine Bérou, Ben H et notre invité Christophe Michalak. Alors, vous n'avez jamais été tenté pour révolutionner les thématiques d'inventer des nouveaux symboles, le crocodile de Pâques, le panda de Noël, la licorne de la Toussaint?
Si, quand j'étais au Plaza Athénée à l'époque, je me servais du mobilier de l'hôtel dans les années 2000-2010 que je reproduisais en forme d'œuf. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de. Vos chocolats sont de petites œuvres d'art, Christophe Michalak?
Crache le chocolat que t'as dans la bouche.
Ça, c'est celui à l'Armagnac. Elle dit Germain, il y a trop de chocolat à l'Armagnac. Ouais, faut arrêter là.
Christophe Michalak.
La moitié de la bouteille dans le chocolat.
Vos chocolats sont de petites œuvres d'art. Qu'est-ce que vous pensez de la tradition qui consiste à cacher les œufs dans le jardin? Parce que moi, les chocolats, je trouve toujours parce que je vis en appartement.
Non, mais j'adore ça. En plus, j'ai un garçon qui a 4 ans et demi maintenant. Et j'adore. En plus, je pense qu'il a développé le même talent que moi. Il renifle un carré de chocolat à 300 mètres. Donc, il les trouve tout de suite.
Mais vous dites que vous avez eu du mal d'ailleurs à développer votre palais. À un moment, vous ne faisiez pas la différence entre une mandarine et une clémentine.
Oui, absolument, au début de ma carrière. Parce que tout simplement, parce que j'ai la rhubarbe bonne maman en pot, couleur bien vert, je l'ai goûtée. Pour moi, la rhubarbe, c'était ça. La purée mousseline, elle était déshydratée, les raviolis, ils étaient en conserve.
Donc votre mère ne faisait aussi pas la cuisine.
Non, pas du tout. Ma maman était aide-soignante, elle travaillait beaucoup. Et j'étais un peu livré à moi-même. Donc c'était des soupes déshydratées, c'était sanglant. Et c'est vraiment lorsque j'ai commencé ma carrière à 18 ans, je suis parti à Londres. Je peux vous raconter pas mal d'histoires, mais l'histoire toute simple, c'est que il y a un pote qui dit tiens, on se fait une petite brasserie ce soir. Je dis ouais, ok, bonne idée. Et dès qu'on arrive dans cette brasserie, le serveur anglais nous fait ouais, qu'est-ce que vous voulez manger et tout. Et mon pote il fait bah tiens, on se fait un Chateaubriand. Et j'ai dit ok, super. Et le mec il revient, il fait quelle cuisson, messieurs. Putain, quelle cuisson, mais de quoi il me parle, le mec? Et je regarde mon pote, je fais oh, comme toi, je fais comme toi. Et donc mon pote, il fait ouais, bleu, hein, cuisson bleue. Putain, on va bouffer des schtroumpfs ou quoi? Tu sais pas ce que tu as mangé. Et là,
Chateaubriand,
je vois la, entre guillemets, côte de bœuf, béarnaise et frites. Et là, je dis, dans ma tête, je me suis dit, première et dernière fois que je passe pour un inculte, il faut vraiment que je bosse là-dessus.
Et là, vous avez potassé tous les livres, vous avez tout appris.
J'ai beaucoup lu, et je lis toujours énormément. Et surtout maintenant, toi, même maintenant, 25 ans plus tard, j'ai quelqu'un qui est en recherche et développement dans mon équipe. Et dès que je lis, je lis tout, les magazines, les bouquins, tout, je goûte tout, je sniffe tout ce qui
vous
est sucré.
Vous
sniffez tout. Non, mais dès qu'il y a un truc, toi, je suis comme une éponge. Et dès qu'il y a un truc que, tu vois, je sais lire une recette, en fait, selon les pourcentages de sucre, de matière grasse, etc., tu sais à peu près à quoi t'en tenir. Et dès que je sens un truc intéressant, mais je fais faire ces recettes par mes équipes. Si elle est parfaite, je la mets sur mon logiciel de recettes en mettant les initiales du chef chez qui je l'ai récupéré, pour toujours la citer. Si la recette est intéressante mais elle manque de peps, et bien là je vais la retravailler, je vais l'assaisonner en fait, hein, comme en cuisine, et je vais vraiment me l'approprier. Je veux dire, on va pas mentir, et je suis premier à défendre ça, et dans tous mes bouquins j'aime beaucoup citer mes amis. Sur quoi je dois avoir 3000 recettes recensées. Quand je parle de recettes, c'est des recettes de base, hein, pâte sablée, des pâtes feuilletées, de la ganache, etc. Sur ces 3000 là, je dois avoir 50% d'héritage de mes confrères, de Gaston Leneau, de Pierre Amé, de plein d'amis qui sont dans la pâtisserie. Et voilà, il n'y a pas de secret. On dispatche tout ça et après, on essaie d'avancer. Pierre, après, moi, j'ai un vrai problème. Ma femme me dit toujours, je ne suis pas tout seul dans ma tête. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me remettre en question. Et pour moi, un gâteau n'est jamais abouti.
Mais comment on fait pour avoir un style quand on est pâtissier?
Alors ça, c'est une très bonne question. Du moment que j'ai commencé mon métier, je rêvais d'apporter mon propre style. En fait, lorsqu'on voit mes gâteaux, on se dit tout de suite « Ah, mais ça, c'est le style d'un tel ou d'un tel ». Sauf que j'ai 45 ans et j'étais chef pour la première fois à 26 ans exactement, au Place d'Athénée. Eh bien, j'ai construit mon style tout doucement et je me suis inspiré un peu de la pâtisserie haute couture. Après, j'ai voulu casser les codes et j'ai voulu travailler pour moi-même et monter ma propre entreprise, sauf que j'avais pas de thunes. Et c'est très dur, hein, d'ouvrir une pâtisserie, parce qu'il faut énormément d'argent, il faut plus d'1 million d'euros de fonds, quoi. Donc j'ai ouvert un petit truc avec mon épouse. Et puis j'ai voulu désacraliser tout ça et faire une pâtisserie, tu sais, un peu une pâtisserie de la rue. Une pâtisserie moins gras, moins sucrée, moins gélifiée, mais beaucoup plus funky, rigolo. Donc là, j'ai ouvert un autre chapitre. 3 ans plus tard, je me retrouvais plus avec cette pâtisserie. Je voulais que ma pâtisserie, mon nom devienne une institution. Et donc, j'ai changé tout ça et j'en ai pris les codes et je me dirige vers une pâtisserie, pas palace, parce que le palace c'était il y a longtemps, mais une pâtisserie qui me ressemble plus. Et surtout, je fais de plus en plus attention à la qualité de mes matières premières. Toi, des œufs bio, je ne travaille plus avec des colorants. Ça, je m'en foutais il y a 3-4 ans. Toi. Maintenant, je ne peux plus m'en moquer.
Pourquoi votre femme dit que vous êtes plusieurs dans votre tête, Christophe Michelac?
Parce que je suis à 200 à l'heure. Et elle me dit aussi, arrête de dire, enlève le mot vite de ton vocabulaire.
Vite?
Donc, ah ouais.
Vous êtes très impatient.
Non, mais alors on va manger vite, on va déjeuner vite, on va faire ça vite, on va faire les courses vite.
Ah ouais. Et l'amour, c'est pareil.
J'attendais la réponse. Ah ouais. Non, ça va. Pour l'instant, ça va.
On l'a en ligne avec nous d'ailleurs. Europe.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le pâtissier Christophe Michelac. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Londo,
bienvenue.
Christine Béroux, Ben H et notre invité Christophe Michelac, le pâtissier. Alors vous donnez aussi des cours de cuisine, ça dure 3 heures.
Ouais.
On apprend à faire des super trucs.
Je pense à vous parce que ma femme était dans la comédie à un moment donné, elle faisait un one woman show il y a quelques années.
Et Delphine McCarthy.
Absolument. Maintenant, lorsque je donne un cours entre guillemets, je suis lessivé lorsque je sors. En fait, c'est 3 heures, c'est comme si j'étais sur une scène de théâtre. C'est-à-dire que il y a 12 personnes, je donne beaucoup d'attention aux gens qui viennent parce que ils viennent en général pour apprendre, pour que je désacralise les pâtisseries, mais surtout pour me voir, me rencontrer, etc. Donc j'essaie d'être très attentif, de retenir le prénom de tout le monde. De ben voilà, je suis moi-même. En fait, je raconte beaucoup d'histoires, etc. Je fais 3 gâteaux. En général, je suis fou parce que je fais des gâteaux que je n'ai jamais fait. Je veux prouver que à la maison, on va développer des gâteaux en ouvrant le placard, entre guillemets, et en faisant avec les moyens du bord. Je me comprends, hein, avec un four ménager, avec un frigo, tu vois. Je veux que ça reste simple, sobre, efficace, et je prends tous les raccourcis pour que, bah, mais ça soit tellement évident, tellement simple, tellement facile.
Mais est-ce qu'en 3 heures, on peut récupérer 30 ans de nullité culinaire?
Je ne sais pas, il faudrait venir participer, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer en 3 produits un peu tout. L'ADN de la pâtisserie, mon savoir monter des blancs, réaliser une ganache, cuire une crème anglaise, voilà, tout ça sans thermomètre, sans... Et quand je mets quelque chose au four, la personne qui est à côté du four, je dis, bon voilà, tac, je l'ai mis au four, il est à 180 degrés en chaleur tournante. Et à chaque fois, on me dit, alors, ça cuit combien de temps? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. C'est vraiment, je le fais en live avec vous. Justement, vous me mettez un top départ sur votre chronomètre. Et puis, un truc comme ça, ça devrait cuire entre 20 et 25 minutes. Et au bout de 20-25 minutes, voilà, on fait comme mamie. Hein, lorsqu'on cuit un cake, on prend la lame d'un couteau, on pique. Si la lame, elle ressort bien sèche, c'est cuit. Et souvent, je dis, quand je cuis un sablé, je dis, voilà, bronzage, ça dépend des peaux, bronzage fin août. Vous voyez, doré, croustillant, à souhait, quoi. Donc, pas fin mai.
Il n'y a que des femmes dans vos cours de cuisine, Christophe.
Non, ça dépend.
Il y a des hommes
en
aussi.
Majorité, des filles, mais certains hommes aussi.
Il y en a qui vous draguent. Ah, oh, un petit sablé, non.
Je laisse pas de...
d'ambiguïté.
Pas de place pour ça.
Non, mais y a pas de, je laisse pas de passage, je suis très amoureux de ma femme.
Vous l'avez rencontré comment, d'ailleurs?
Dans un dîner. Je l'ai rencontré dans un dîner, oui, comment vous savez ça?
Parce qu'elle était là.
Et dans vos ateliers, c'est des recettes façon Michalak, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai plein de recettes façon Romanov, si vous voulez, c'est des recettes principalement ratées.
Ça, c'est vrai.
Non, mais en fait, je conçois, c'est quand je sors d'un cours, je réfléchis à ce que je vais faire la semaine d'après. Mes recettes sont extrêmement bien classées comme une arborescence et comme un peintre avec sa palette de couleurs. Quand je réfléchis à un gâteau, je vois déjà les textures, les goûts, les saveurs, dont je dessine concrètement l'architecture en fait, du gâteau, et je vais tout de suite puiser dans mes recettes de base. Après, on va faire tout ça, on va le réaliser, et bien évidemment, ensuite, il va falloir il y a souvent des réajustages, du réassaisonnement. En
moi,
fait,
j'aimerais tellement que vous fassiez un gâteau avec autant de calories qu'un yaourt, par exemple.
Ah, mais je fais ça. Ça s'appelle manger une pomme.
Mais
on fait, mais c'est vraiment pas... C'est pas génial, c'est pas super sexy. Mais je sais faire. Mais c'est pas...
Mais il y aurait tout un marché, bon. Hein, quand même.
Mais oui. Ouais, mais c'est...
Faites
ça,
des gâteaux
ça...
normaux, vous ouais. Marquez light par-dessus, et puis hop, là,
non,
vous
mais
les
c'est
vendez.
Comme pendant des années, j'ai mangé des yaourts light, ou etc. Et en fait, c'est pas bon pour l'organisme. Quoi. Il vaut mieux manger... Je pense qu'il faut manger... Enfin, il n'y a pas de secret, hein. Moi, je fais des régimes depuis que je suis né, donc il faut manger moins. Parce que souvent on dit ouais il faut faire beaucoup de sport. Moi je fais que du sport, mais c'est pas ça qui fait maigrir. Ce qui fait maigrir, c'est ce qu'on emmagasine dans notre corps. Parce que être à la diète pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais faire. Puis à un moment donné, voilà,
quand vous êtes à la diète, comment vous faites pour goûter vos gâteaux?
Parfois, je faisais des régimes très stricts et je ne goûtais pas. Et en fait, je ne referais plus jamais ça. Pourquoi? Parce que même si j'ai des équipes extraordinaires et j'ai un chef incroyable, etc., ils n'ont pas ton palais, ils n'ont pas comme un musicien une oreille musicale. Donc même s'il va se rapprocher à peu près de ce que je veux. Ben, ça ne sera jamais vraiment ce que tu veux. Donc maintenant, je goûte à une heure précise. Je trouve que 16h, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure parfaite. Je goûte un tout petit peu, mais je goûte.
Tous les jours, vous goûtez un gâteau?
Ouais, plus qu'un gâteau. Avant de goûter, vous voyez, je vous ai fait les petits sachets, là. Avant de goûter, j'ai dû manger une dizaine d'œufs, mais au praliné. Hein.
Ah ouais.
C'est les meilleurs.
Cherchez pas des stagiaires.
Voilà. Là, parce que... enfin, quand je suis venu en vélo électrique, alors j'arrête la machine, quoi, et là, j'ai pédalé comme un fou. Mais je suis trop content. Et je pense qu'en plus, notre machine, notre corps, c'est notre machine de combat, c'est notre voiture en fait. Hein, et il faut bien l'alimenter. Donc je suis maintenant extrêmement vigilant, en salé aussi, parce que je cuisine beaucoup aussi chez moi.
Et c'est pour ça que vous allez ouvrir un restaurant végétarien? C'est parce que vous, tout d'un coup, vous avez
peur? Vous êtes super
de...
bien.
Elle
est un peu cliente.
Elle est abonnée à Végétarien Magazine.
Jean-Philippe Vizigny a des choses à vous dire, Christophe Michalak.
Mais oui, Christophe Michalak. Si vous proposez des cours de pâtisserie, eh ben j'aimerais bien vous envoyer mes enfants. Moi, j'ai un garçon de 10 ans, une fille de 14 ans. Et ce week-end, ils ont voulu faire de la pâtisserie tout seul, à la maison, pendant qu'avec ma femme, on est allé faire un barbecue chez les voisins. Tout se passait bien jusqu'au moment où mon voisin, il me dit « C'est bizarre, c'est ici qu'on fait un barbecue et pourtant, c'est dans ta maison que ça fume !» On part en courant direction la maison, on arrive dans la cuisine, je demande aux enfants « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le petit, il me dit « On a voulu faire des crêpes, on les a fait sauter, mais elles sont restées collées au plafond. On a voulu les faire flamber au Grand Marnier, ben on s'est tout pris sur la tronche. Il y a les cheveux de ma sœur, ils ont commencé à prendre feu. J'ai voulu l'éteindre avec la bouteille que j'ai trouvée dans le placard, c'était du rhum. Finalement, j'ai réussi à l'éteindre avec la chantilly qui était dans le frigo. Oh là, mais le bordel. Mais je lui dis, mais le four, pourquoi il fume le four? Il me dit... C'est le gâteau au chocolat. Comme les crêpes étaient foutues, on a voulu faire un gâteau au chocolat. Au chocolat, mais on n'a pas de chocolat à la maison. Vous l'avez trouvé où? Dans ta table de chevet. Il y avait des cigarettes, des feuilles à rouler et du chocolat. Je fais quoi? Et vous avez mis tout le shit de tout le chocolat? Tout le chocolat dans le gâteau? Il me dit oui. Et vous l'avez mangé? Ben non, comme il sentait bizarre, on l'a d'abord fait goûter au chien. Ben le chien, il est devenu tout vert, il s'est mis à sauter dans tous les sens, il est monté dans ta voiture, tu me crois pas, il a réussi à démarrer la voiture. Je dis, mais quoi, il est parti avec la voiture? Oui, mais t'inquiète pas, il avait bien mis sa ceinture, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pour ça, Christophe Michelac, je comprends mieux pourquoi vous donnez des cours de pâtisserie, parce que devenir pâtissier, ça s'improvise pas.
Bravo.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Christophe Michalak. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Jean-Philippe Bisouni et Christine Béroux, Ben H et notre invité Christophe Michalak. Alors vous dites, Christophe Michalak, ma mère est un exemple. Elle travaillait sans se plaindre 12 heures par jour comme infirmière et faisait en plus des ménages pour me donner une éducation correcte. Grâce à elle, j'ai la niaque. Plus on me tape dessus, plus j'ai une résilience naturelle. Plus le défi est grand, plus je surmonte les épreuves.
C'est ceux qui me connaissent qui trouveront les meilleurs mots, mais oui, ça définit tout à fait ma perception. J'ai eu un super exemple de ma vie.
Léa Landau a des petites questions à vous poser, Christophe Michalak.
Oui, Christophe Michalak, il paraît que beaucoup de personnes comblent le manque d'affection par le chocolat. Et vous?
Oh, c'est pas faux, hein. Ouais. Je pense qu'il y a de ça. Peut-être que je suis venu pâtisser parce que j'aimais faire des gâteaux pour les gens que j'aimais, pour ma maman au tout début. J'ai toujours gardé cette générosité.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat qui nous rend tant accro?
Allez savoir. Je dis souvent ça dans mes cours. J'ai touchez pas la drogue, ça sert à rien.
Prenez du chocolat.
De bonnes matières premières, un très bon chocolat, c'est tellement dingue. Surtout lorsqu'il est parsemé de noisettes caramélisées, de fleurs de sel. Moi, je fais ça, mais je peux m'affronter Tyson derrière. Je vais en prendre une,
chiche.
C'est sûr. Mais dans ma tête,
après Booba, Caris, Christophe Michalak.
Alors, je vous ai préparé une interview chaud, chocolat. Le carré qui rend le plus rond, c'est le noir, le blanc ou le lait?
Alors, je vais te raconter ma life, mais pendant très longtemps, je préférais le lait.
Ouais,
tu vois,
comme beaucoup de gens.
Et en vieillissant, parce qu'en fait, le chocolat, c'est comme du vin, hein, selon le cacao, où est-ce qu'il pousse, il a une consonance, il a un goût très particulier. Là, en ce moment, je suis sur un chocolat de Bolivie, là, qui est brut, donc il n'est pas conché, il y a des grains de grue de cacao dedans. C'est très brut, c'est très rustique. Voilà, c'est mon chocolat du moment. Hein.
Et vous préféreriez passer un dîner à ne manger que du chocolat ou à discuter avec la femme chocolat, qui est Olivia Ruiz?
Voilà,
sachant qu'il y a votre femme qui écoute.
Je mangerai que du chocolat.
Bah ouais, sympa.
Bah je prends l'autre.
Il y a du chocolat à la maison. Et je vais vous donner une info. Quand Patrick Roger a ouvert sa première chocolaterie, je l'ai aidé. Et je lui ai fait toute une gamme de gâteaux, etc. Finalement, il a tellement surfé sur le succès du chocolat qu'il s'est concentré que sur le chocolat. Et quand j'étais là-bas, j'adorais ces rochers pralinés chocolat. Je devenais fou. J'en bouffais 200-300 par jour. J'étais comme un fou.
200-300?
Ouais, mais je bossais comme un dingue. Je bossais sans m'arrêter. Je mangeais que ça, quoi. Dans 200-300, je me suis un peu excité. Mais vraiment, je pouvais me lever la nuit pour en manger. Ça me rendait dingue.
C'est possible.
Ça me rendait dingue.
La soirée de l'ambassadeur.
Lorsque je me suis marié, il m'a offert une quarantaine de paquets de rochers pralinés, double étage. Ouais. Mais un truc de fou, quoi.
Et en une heure, il a tout dégommé.
Et j'ai demandé à ma femme de les planquer dans la maison parce que je savais que j'aurais pu péter un plomb et je peux me taper 10 coffrets dans la soirée. C'est vraiment ma drogue.
Addictif.
Addictif total.
Christine Béroux, elle est passée à la casserole, la Vénarde, et elle a fait de délicieux biscuits vegan.
Oui, parce qu'ils sont clivants dans cette équipe.
Et vous allez devoir les goûter.
Il y a des gens qui les trouvent bons et d'autres les trouvent immangeables. Non. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est Christophe Michalak qui va trancher.
Il les respire, il mange.
Il devient vert, c'est bizarre. Ah,
il est honnête.
Il a quitté le studio.
Il y a de l'avoine dedans, non?
Oui, c'est ça, des flocons d'avoine. C'est
vous
une
étiez
erreur.
Hyper sympa jusque-là, là, vous avez changé.
Non. Et c'est un juge professionnel.
Déjà, c'est pas simple. En fait, le cookie, il faut le cuire saignant.
Eh, saignant, elle est végane déjà. Champ lexical, c'est pas bon là.
Il faut le cuire à peine, il faut qu'il soit presque cru. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'à la sortie du four, tu rajoutes une grosse pastille de chocolat dessus. Ça va à fond tout doucement et ça va garder ce, cette.
Mais qu'est-ce qui manque dans ces cookies pour qu'ils soient bons?
Du goût,
du beurre. C'est ce que je veux dire. Mais
non, non,
mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas l'image
ma
du cookie.
Qui écoute, donc.
Déjà, se procurer un très bon chocolat.
Et quel chocolat elle aurait dû acheter alors dans la grande distribution? Qu'est-ce qu'on peut acheter comme chocolat?
Il y a plein de chocolats incroyables. Moi, je travaille souvent avec le même qui est le chocolat à Valrhona à 70%. Par exemple, le Guanara, le Mangiaric à 63% qui est un peu.
Donc c'est pas terrible ces cookies. Ouais.
Parce qu'elle vient de prendre un crédit pour la pâtisserie. C'est pas une bonne idée pour vous.
Non mais j'en ai goûté des très bons. Et en fait il faut les matières.
C'est pire que tout. Non,
je m'explique. Je m'explique. Parce qu'il y avait, je crois, du beurre de cacao, non du beurre de coco,
ah, oui,
ou de l'huile
ça.
De coco dedans.
Et
en fait ils étaient extra mous et fondants. Pas forcément.
Mais là, ils sont
d'ailleurs,
secs en fait. Ça, ah ouais. Ça.
Bah, pour caler un meuble, qu'est-ce que.
On peut applaudir Christine.
Bah ouais, quand même, elle a cuisiné toute la nuit, la pauvre. Oh là là, bravo, elle a fait Christine. Ça à 2h du matin.
Et comme je dis à mon fils, c'est pas que je n'aime pas. Pour moi, le cookie, je suis très à cheval là-dessus parce que en fait, j'ai appris à faire des cookies en allant et en vivant aux États-Unis.
Est-ce que vous auriez une recette toute simple pour ceux qui nous écoutent, un dessert express, Christophe Michalak?
Je fais souvent des vacherins à la maison. C'est-à-dire que je prends un pot, une marmite, je la mets dans mon petit congélateur. Je prends une glace coco, une glace passion. Et quand mes invités sont là, je monte un petit peu de crème montée. Que je
la crème fraîche
pas.
On peut prendre allégée?
Non, une crème à 30-35%. Il faut que la crème soit bien froide. Vous la montez un peu au fouet donc, pour qu'elle soit mousseuse. J'ai toujours des débris de meringue à la maison, ou des bonbons en forme de meringue ou de sablé, plutôt de la meringue hein, pour le vachin. Et en fait, paf, à la minute, je sors mon pot très froid. Je prends ma bouleuse à glace, je sors mes glaces, je fais des boules. Et en fait, dans mon pot, je fais une boule coco, une boule passion, coco, passion, coco, passion. Voilà, je remplis
un étage.
Tout l'étage. Tout de suite, ma crème montée, qui est un peu, qui a une texture mousse à raser, je mets 2-3 cm dessus. Je prends mes meringues, je les écrase comme ça, par-dessus. Je zeste un gros citron vert et hop, je mets ça sur la table. C'est le vacherin minute, tout simple, tout bon, tout frais. Voilà.
Ouais, facile à faire.
Après, une bonne glace achetée chez ton artisan, une bonne meringue à part, la crème montée, t'as juste à monter, donc c'est pas compliqué. Et ça peut aller vite et ça peut être rigolo.
Merci.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Christophe Michalak, on a une tradition de cette émission. Chaque lundi, on démarre une histoire. Aujourd'hui, on est lundi. C'est donc à vous de la démarrer avec un mot à piocher dans ce chapeau.
Voilà, on m'a dit ça au début. J'ai dit, ouais, je vais être nul. Ça va, chocolat.
Chocolat. Il faut commencer une histoire avec le mot chocolat, en deux phrases.
Il était une fois une animatrice radio très sympathique qui adorait se goinfrer de chocolat.
Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Merci Christophe Michalak d'être passé le voir. On rappelle donc vos nouveaux chocolats de Pâques et puis vos ateliers de cuisine qui sont complets, mais on peut quand même s'inscrire très longtemps à l'avance.
Bien sûr, ouais.
Merci d'être passé nous voir.
Merci, c'était très sympathique.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin, mais on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.